VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. On commence par le Nigeria, le sud-est du pays commémore aujourd'hui le cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra qui avait entraîné 3 ans d'une terrible guerre civile ayant fait plus d'un million de morts. Les magasins, les écoles et les bureaux sont restés fermés aujourd'hui dans cette région à grande majorité Igbo où les velléités indépendantistes persistent 50 ans après les événements. Les appels à faire sécession du Nigeria se sont amplifiés ces dernières années, notamment après l'arrestation de Nnamdi Kanu, le chef de file du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, l'IPOB, fin 2015. Kanu a été libéré fin avril sous caution, mais ses 18 mois de détention ont attisé les colères et le sentiment d'exclusion des Biafrais. Pour leur part, les autorités fédérales surveillent de près la situation et soulignent leur détermination de préserver l'intégrité territoriale du Nigeria. En Côte d'Ivoire, l'audition de Souleymane Kamagaté, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, continuera demain à Abidjan. M. Kamagaté a de nouveau été entendu lundi par les enquêteurs sur la découverte le 15 mai d'une cache d'armes à Bouaké, épicentre des récentes mutineries de soldats. Jean-Roger Bion.
L'audition de Souleymane Kamagaté, dit Salt Soul, par le procureur a duré plus de 6 heures. Mais rien n'a filtré de l'interrogatoire. Ce proche du président de l'Assemblée nationale a été laissé libre et convoqué à nouveau pour mercredi. L'enquête contre Souleymane Kamagaté a été ouverte vendredi dernier après la découverte d'une importante cache d'armes dans un logement donné pour être sa propriété à Bouaké pendant les mutineries qui ont secoué le pays en mai. Les questions lui ont été posées sur cette affaire de cache d'armes et il a répondu qu'il n'était ni l'acquéreur ni le propriétaire de ces armes, avait expliqué la semaine dernière à la presse Moussa Touré, directeur de la communication à l'Assemblée nationale. Les médias présents à Bouaké ont rapporté avoir vu des caisses d'armes retrouvées sur ces lieux. Des mutins avaient quant à eux exhibé de nombreuses armes provenant de cette cache d'après l'AFP. Le ministre ivoirien de la Défense, Alain Richard Donvahi, avait annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités.
Au Niger, le procès au fond dans l'affaire du président de la coalition des partis de l'opposition, Amadou Djibo Ali Dimax, s'est tenu lundi au tribunal de Niamey. Le prévenu est poursuivi pour proposition de complot visant à renverser le régime du président Issoufou Mahamadou. Après avoir écouté les deux parties, le juge a mis l'affaire en délibéré au 6 juin. Les détails avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Amadou Djibo Ali Dimax a plaidé non coupable du fait qui lui est reproché. Proposition de complot visant à renverser le régime. Malgré le rejet par le juge des exceptions qu'ils ont soulevées lors de la première audience déjà, les avocats du président de la coalition des partis politiques de l'opposition sont revenus lundi matin encore sur la nullité de la procédure pour demander la relaxe pure et simple de leur client, Maître Marc Le Bihan.
Je suis vraiment triste que pour des arguments aussi légers, aussi illégaux, sans preuve, on amène quelqu'un en flagrant délit et on le détient pendant 15 jours. Il y a vraiment un abus, un détournement de procédure. Moi, je pense que les éléments ne sont pas constitués. Le juge est obligé de relaxer Marc.
Le ministère public a requis 6 mois d'emprisonnement ferme et 200 000 francs CFA d'amende. La décision du juge est très attendue par l'opposition qui parle d'intimidation et de dévouement de la démocratie par le régime en place. Un rappel, c'est suite à une intervention appelant les militants de l'opposition à une mobilisation plus conséquente pour faire face au régime que le président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République a été interpellé le 15 mai dernier à son domicile. Abdelrazak Idrissa Andiamé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Soudan du Sud, le procès de 13 soldats sud-soudanais accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet 2016 à Djouba s'est ouvert ce mardi devant un tribunal militaire dans la capitale de ce pays en guerre depuis 2013. Le colonel Aboubakar Mohamed, procureur militaire, a souligné sa détermination de mettre fin aux exactions au sein de l'armée. Michel Joseph.
L'attaque la plus grave contre les agents humanitaires au Soudan du Sud avait eu lieu en juillet 2016 dans un hôtel de Djouba. alors que les soldats du président Salva Kiir venaient de chasser les forces loyales à l'ex-vice-président Riek Machar. Cette affaire avait entraîné le limogeage du commandant des casques bleus, ainsi que la démission du chef de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Les enquêteurs onusiens ont souvent accusé l'armée sud-soudanaise et les rebelles de recourir au meurtre, viol et à la torture depuis le début, en 2013, de la guerre civile, de même qu'ils n'ont cessé de dénoncer l'impunité au Soudan du Sud. Nous voulons éliminer ces crimes dans les rangs de l'armée, a assuré le procureur militaire Aboubakar Mohamed, qui a promis de se pencher également sur la responsabilité des officiers commandant les troupes.
En RDC, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Mutondo, et le ministre porte-parole du gouvernement Lambert Mende figurent parmi les 8 hauts responsables congolais sanctionnés par l'Union européenne. L'organisation pan-européenne basée à Bruxelles les accuse de graves violations des droits de l'homme, Abdourahmane Dia.
Cette liste publiée au journal officiel de l'UE s'ajoute à celle de 7 personnes soumises à des sanctions depuis décembre 2016 en réponse aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l'homme qui y étaient liées. Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Elles touchent, entre autres, le directeur de l'Agence nationale de renseignement, Caleb Mutondo, impliqué dans l'arrestation arbitraire d'opposants et de militants de la société civile, selon les termes même du communiqué. Parmi les responsables sanctionnés figure également le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lambert Mende, accusé d'être responsable de la politique répressive menée envers les médias. Le ministre de l'Intérieur, Ramazani Shadari, est aussi concerné. Le chef de milice Kiyungu Mutanda, lui, est sanctionné pour avoir contribué à de graves violations des droits de l'homme et à des crimes de guerre tels que des exécutions de civils au Katanga. Ces nouvelles sanctions pourraient dégrader davantage les relations déjà tendues entre Bruxelles et Kinshasa.
Et puis au Kenya, les 8 candidats à l'élection présidentielle du 8 août sont connus depuis hier. La commission électorale kenyane les exhorte tous à éviter des discours de haine pendant la campagne. Lionel Gaïma.
La commission électorale indépendante du Kenya a retenu 8 candidats pour la présidentielle du 8 août. En plus du président Uhuru Kenyatta et son principal opposant Raila Odinga, les candidatures de 3 leaders de petits partis et de 3 indépendants ont également été retenues. Pour être accepté, un candidat doit être kenyan de naissance, détenir un diplôme d'une université reconnue. Monsieur Uhuru Kenyatta se représente cette année avec son vice-président William Ruto, qui s'est adressé à des partisans à Nairobi peu avant le dépôt des dossiers. Comme vous le savez, le président Uhuru Kenyatta va déposer son dossier afin de se présenter à la présidentielle du 8 août et nous vous remercions d'être venu l'accompagner à la commission. De son côté, l'opposition a formé une coalition, la NASA, National Super Alliance. Celle-ci regroupe 5 poids lourds de la politique, dont Raila Odinga, ancien premier ministre, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidence. Il se présente avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président. Raila Odinga appelle la commission à simplement respecter la volonté du peuple. La commission doit être à même non seulement d'organiser des élections libres et transparentes, mais aussi de s'assurer que ces élections soient vraiment libres et transparentes. Les citoyens de la première économie d'Afrique de l'Est sont appelés aux urnes 10 ans après les pires violences électorales kenyanes qui avaient fait plus de 1100 morts lors de l'élection de Mwai Kibaki. Alors que la fièvre électorale monte, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a lancé une mise en garde à tous les candidats. Vous avez signé un accord de bonne conduite en tant que parti politique et en tant que candidat. Et nous, la commission, n'hésiterons pas à mener des actions si vous violez ce code de conduite. Nous voulons que ce pays soit paisible avant, pendant et après cette élection. Les élections de 2013 ont été pacifiques, mais Uhuru Kenyatta et William Ruto ont été accusés d'avoir orchestré les violences de 2007. Faute de preuves, la Cour pénale internationale a abandonné les poursuites contre les 2 hommes.
Et pour terminer, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Le tabagisme tue chaque année plus de 7 millions de personnes dans le monde, a averti ce mardi l'OMS, en appelant à interdire la promotion du tabac et à augmenter les taxes sur ses dérivés. Le coût du tabagisme à l'échelle planétaire, plus de 1400 milliards de dollars, soit 1,8% du produit intérieur brut mondiale. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.